Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 6 avril 2021 et rassurez-vous, dorénavant, tout va bien. Tout va bien parce que après ces 4 jours de Pâques, on a eu que des bonnes nouvelles. Puisque jeudi dernier, le S&P 500 a cassé la résistance psychologique des 4000 points sur le S&P 500 sans coup férir, sans hésiter une seconde. C'était tellement facile. On a l'impression qu'on savait déjà les chiffres excellents des non-farm payroll, des chiffres de l'emploi américain qui seraient publiés le lendemain, puisqu'effectivement, vendredi dernier, les chiffres étaient juste stratosphériques. On attendait quelque chose comme 675 000 créations d'emplois pour le mois de mars, et c'est sorti plutôt à 900 916 000 pour être très précis, donc carton plein. En plus, on a révisé à la hausse les chiffres des non-farm payrolls du mois précédent de l'ordre de plus de 80 000 personnes. Donc tout va bien. On aurait pu craindre finalement que ces chiffres-là nous fassent de nouveau paniquer au niveau de l'inflation. Mais que nenni, parce que pas du tout, hein, l'inflation reste pour l'instant sous contrôle, évidemment, mais on se dit que c'est un petit peu du prévu, puisque non seulement Jérôme Powell nous avait annoncé qu'on allait avoir un spike, un pic inflationniste ces prochains temps, mais que ça reviendrait rapidement à la normale et que tout était sous contrôle, surtout l'inflation. Alors il nous dit ça depuis plusieurs semaines, on a eu de la peine à le croire. C'est un peu comme Saint Thomas, on avait besoin de le voir pour le croire. Aujourd'hui, on voit que les chiffres économiques sont excellents et que finalement, ça correspondrait assez bien à un scénario de pic et retour à la normale. Donc peut-être que finalement, Jérôme Powell a des bonnes informations et qu'on peut lui faire confiance. En tous les cas, les marchés sont beaucoup appréciés la nouvelle. Ça montre quoi? Ça montre finalement que la croissance semble de retour, que les gens sont beaucoup plus à l'aise par rapport aux perceptions futures, que les employeurs réemployent. Et quand on parle de réouverture de la plupart des États et des restaurants aux États-Unis, on n'ose même pas imaginer comment ça va être les chiffres de l'emploi à la fin du mois d'avril, quand tous les restaurateurs ont commencé à employer à nouveau. Alors attention, quand je parle de restaurants qui rouvrent, c'est aux États-Unis, c'est pas en Europe. En Europe, on a des marchés qui vont bien, mais pas parce que les restaurants et que c'est la fête dans les rues. Pour l'instant, ça reste toujours un peu craignos. Par contre, aux États-Unis, c'est là-bas où on voit qu'il y a une amélioration. Les chiffres de contamination sont en baisse, le nombre de décès est en baisse, il y a des lits de réanimation à ne plus savoir qu'en faire, le taux d'hospitalisation est en baisse, tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, les Américains vaccinent à tour de bras, en 24 heures, ils vaccinent autant que la France en 2 semaines, si ce n'est pas en 2 mois. Et donc, pour donner un exemple, hein. Et donc voilà, pour l'instant, on est vraiment dans une situation où finalement, tout a l'air de bien se passer. Et puis, on supporte même assez facilement de voir le rendement du 10 ans américain titiller régulièrement les 1,70. Et c'est presque devenu le new normal. En tout cas, pas mal de soulagement. On sent qu'il y a un retour de l'optimisme ambiant dans les marchés. Les gens commencent à croire qu'on pourrait encore continuer à aller plus haut. On hésitait un petit peu ces derniers temps. Il y avait peu de grains de folie. Et depuis jeudi dernier, on a l'impression que ça s'excite à nouveau. Donc ça se présente plutôt pas mal sur les marchés. Record battu sur le DAX, record battu sur le S&P 500. Bref, en plus de tout ça, on a le retour de la croissance. Alors souvenez-vous, depuis quelques temps, on nous bassine avec buy the value and sell growth. Et bien maintenant, on est toujours sur buy the value, but buy also growth. Donc il faut aussi acheter de la croissance à côté du value en ce moment. Et on le voit bien, hein, on a pas mal de gros titres, dont les GAFAM, qui sont de retour dans les starting blocks. Il y a Amazon qui est prête à aller casser des résistances. Il y a Apple qui s'éloigne du bas de son trend baissier et qui a l'air d'accélérer en prévision des résultats. D'ailleurs, à propos des résultats qui arrivent, tout le monde est en train de se dire « Ouais, peut-être qu'on a été un petit peu trop négatif au niveau des résultats. » Et puis, on aura peut-être des bonnes surprises, finalement. Alors, les résultats vont venir. On verra à partir du 15 avril la saison des résultats qui va commencer pour de vrai, voir un petit peu comment ça se passe. Mais si les bonnes surprises commencent à venir, on va avoir probablement un mois d'avril spectaculaire ces prochaines semaines. En tout cas, on peut s'attendre à ça. D'ailleurs, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, observez le SOX, le graphique du semi-conducteur index, qui a explosé, mais littéralement explosé ces derniers jours, pour finir au plus haut de tous les temps sur l'indice. Alors, il y a quelques jours en arrière, on n'aurait pas parié là-dessus, mais tout d'un coup, tout est revenu en odeur de sainteté et tout le monde est super chaud bouillant à nouveau sur les semi-conducteurs. Donc, gros engouement et on dit toujours que quand le SOX va, tout va et que tout le monde court a tendance à vouloir se baser comme leading indicator. Donc les gens regardent le SOX comme leading indicator en se disant, bah oui, c'est le prochain qui va nous tirer à la hausse. Et si le SOX va, eh bien tout va suivre. Et le Nasdaq a l'air d'être prêt aussi à repartir à l'assaut des plus hauts historiques. Donc tout a l'air de bien se passer pour l'instant. Un autre exemple pour montrer comment ça se passe bien. Hier, Tesla a annoncé ses nouveaux chiffres de vente de voitures pour le trimestre. Du 1er janvier au 31 mars, ils ont annoncé 184 000 voitures vendues contre 177 000 attendues. Le marché est en délire, on est à plus de 7 000, enfin entre 7 et 8 000 nouvelles voitures vendues et les gens sont complètement hystériques. Il y a eu un upgrade en passant de 950 à 1000 price target, mais en disant que si tout allait bien, Tesla pouvait faire même 1300, mais facilement. La croissance était de retour et selon l'analyste en question, celui de Wedbush, comme d'habitude, eh bien on est dans une période absolument fantastique et c'est un nouveau paradigme qui s'ouvre pour Tesla. 8000 voitures, c'est un nouveau paradigme. Alors, j'ai pas tout compris, hein, effectivement, mais j'ai probablement pas le niveau intellectuel pour tout comprendre. Mais c'est un nouveau paradigme et tout va bien dans le meilleur des mondes. Rien que sur la nouvelle, le titre a pris plus de 5%, ce qui représente plus ou moins 30 milliards de market cap. Donc voilà, pour 8000 voitures, ça représente 30 milliards de market cap. C'est clair qu'à ce rythme-là, eh bien, on va vite se retrouver à 5000 sur Tesla, tellement ça monte vite si on fait une proportionnalité avec le nombre de voitures vendues. Bref. On voit qu'en tout cas, l'enthousiasme sur la techno semble un petit peu de retour depuis des très bons chiffres d'Elon Farm Peros la semaine dernière. L'idée du jour pour moi aujourd'hui, je vais jouer un peu la techno comme tout le monde et je pense qu'il y a un titre qui est un petit peu en retard sur tout ça, et bien c'est AMD. AMD qui est revenu dans le bas de son range, qui a déjà bien rebondi depuis le fond du trou de la semaine dernière. Il se traite autour de 82$. Je pense qu'on peut jouer honnêtement la direction 90-95 si elle reprend le rythme avec tout le monde et s'il y a une accélération de l'enthousiasme sur la croissance un peu partout aux États-Unis. Je pense que AMD sera un bon truc à observer et à jouer avec un stop loss 5-6% plus bas en cas d'erreur ou en cas de déception ou de redégonflement du marché. Autrement, pour terminer ça, il y avait une question qui m'est arrivée sur l'adresse tv@morningbull.live. Quelqu'un me demandait, qui a été victime un peu de l'affaire Viacom Archangos l'autre jour. Et du coup, cette personne me dit, est-ce que c'est normal qu'une société fasse un placement à ce niveau-là sans prévenir ses propres actionnaires? Donc rappelons un petit peu l'histoire. Hein, sur Viacom il y a 10 jours en arrière, la société a placé pour l'équivalent de 3 milliards de dollars d'actions au plus haut de tous les temps, en se disant bon, on va profiter un petit peu du fort rebond, quoi, une autre action pour générer un peu de cash pour se développer. Derrière, il y a eu, boule de neige, effet boule de neige avec la société, ce fameux fonds d'investissement Archegos qui s'est pété la figure de manière monumentale et qui a entraîné avec lui finalement Viacom. Donc du coup, comme il était investi en CFDs, en Contract for Difference, il a dû balancer toutes ses actions au fur et à mesure que les banques lui faisaient des appels de marge. Résultat, ça a mis la pression sur le titre qui a perdu plus de la moitié de sa valeur aujourd'hui, qui n'a toujours pas réussi à rebondir d'ailleurs. Donc la question, c'est est-ce que c'est normal et est-ce qu'on peut faire quelque chose? Malheureusement, un placement secondaire comme ça, quand la société elle-même vend ses propres actions et qu'elle a rempli toutes les réquisitions, les formulaires indispensables auprès de la SEC pour le faire, on peut pas leur reprocher grand-chose. Ce n'est pas une augmentation de capital, c'est un placement secondaire. Généralement, ce genre de placement met un peu la pression sur le titre, mais c'est pas non plus la catastrophe comme ça s'est passé. Là, il y a un effet supplémentaire qui est l'effet dérivé et l'effet structuré qui a fait que appel de marge et effet boule de neige. Donc pour vous, pour répondre très simplement, je ne pense pas qu'il y ait un recours possible. Je pense que si on veut avoir des renseignements très clairs sur les possibilités que l'on a de faire un éventuel recours, il faut peut-être discuter avec un avocat spécialisé là-dedans, mais à mon sens, ils n'ont rien fait d'illégal et ils ont certainement pris toutes les mesures nécessaires pour ne pas se retrouver pris dans quelque chose justement de malhonnête ou d'illégal. Simplement, c'est plutôt l'effet malheureux de ces structures, de produits structurés CFDs qui auraient mis la pression dessus et qui a eu pour conséquence de voir finalement le titre divisé par deux. Par contre, je pense que la société en elle-même n'y est pas pour grand-chose puisque ça se produit régulièrement. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, on a encore eu GameStop qui a annoncé un placement hier soir pour profiter de la hausse de son cours et le titre ne baisse même pas. Voilà, je crois que c'est simplement un petit peu une mauvaise situation et d'avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. C'est malheureux. Et c'est clair, mais là, ça lève, à mon avis, plus de soucis du côté des actions et des interactions de certains hedge funds qui deviennent trop gros pour pouvoir les laisser agir comme ça. Et c'est peut-être là qu'il faut peut-être réfléchir plus loin. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter aujourd'hui. Aujourd'hui, on aura encore quelques petits chiffres économiques, type chômage en Europe et JOLTS aux États-Unis. Pour l'instant, les futurs ne font pas grand-chose. Et le Japon est en baisse parce qu'on craint la quatrième vague de Covid au Japon. Comme quoi, ça fait le plaisir de voir qu'il n'y a pas qu'en Europe où on est encore en train de faire du surf, pendant que les autres sont déjà sur les terrasses en train de fêter le printemps aux États-Unis. Passez une très belle journée et nous, on se retrouve demain matin à la même heure et au même endroit. À demain, bye bye.